25 ans d'histoire des capitales de Québec au Stade Canac. Il s'en est passé des choses en 25 ans d'histoire pour les capitales de Québec. Des beaux moments, des moments plus difficiles. La résilience, c'est un mot qui a été crucial au cœur de l'histoire de cette équipe-là. On en parle aujourd'hui avec Michel Laplante et avec Carl Tardy, ancien journaliste du journal Le Soleil. 25 ans d'histoire des capitales de Québec, souvenirs du stade. Épisode 1, la résilience. Une présentation du Salon de jeu de Québec. Michel Laplante, Carl Tardy, salut les gars.
Salut Pierre.
Comment ça va?
Salut Michel.
Très content de vous retrouver ce matin parce que Carl, tu as été un témoin privilégié de l'histoire des capitales. Michel, tu as non seulement été un témoin, mais aussi un acteur privilégié de l'histoire des capitales. Vous allez être deux personnes très bien placées pour parler du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, la résilience. Parce que c'est pas un long fleuve tranquille, l'histoire d'une équipe de sport. L'histoire d'une équipe de sport pro, hein, Michel, je vais te lancer là-dessus. C'est pas un long fleuve tranquille.
Non, pas du tout. C'est ce qui fait que c'est intéressant, par contre, que c'est le fun.
Ouais.
Mais loin de là, surtout quand tu le vis de l'interne. Là. Donc, encore aujourd'hui, à chaque jour. Et c'est ce qui rend probablement tout ça très, très intéressant. Puis je suis content qu'on en parle. On peut même, tout au long là, des prochaines minutes, de la prochaine heure,
ouais,
en discuter. Parce qu'il y a des, il y a des stratégies, il y a du positivisme peut-être exagéré à des moments pour se convaincre que ça va marcher quand même. Donc, il y en a pas mal.
Mais commençons avec la création de l'équipe, parce que veux pas, on part de là. Puis tu sais, Michel, tu as été des premières heures de l'équipe ou à peu près là, en tant que joueur, ensuite comme coach, puis ensuite comme grand dirigeant. Fallait avoir cette idée-là, c'est une chose, mais fallait la pousser, cette idée-là, à Québec, dans le Nord, au Canada, où il y a de la neige, où on n'a pas de terrain prêt avant la fin du mois de mai. Hey, ça a été tout un chemin de croix pour commencer ça.
Ben moi, ma première rencontre, c'est quand même par hasard. C'est le coach à Madison, au Wisconsin, qui me dit en fin de l'année, « Monsieur Wolf, je veux te rencontrer. » Je dis, « C'est qui, Monsieur Wolf? » Il dit, « Come on, c'est le propriétaire de l'équipe. » Tu sais, puis je me souviens, c'est un dimanche, on joue en après-midi, en soirée, je rencontre Miles, puis Francine est enceinte là, de 7 mois. Donc, probablement que pour moi, c'est la dernière année de baseball. Je me remets en question énormément, 30 okay. ans. Et il me dit, écoute, Michel, tu viens du Québec, puis je veux partir une équipe à Québec. T'es-tu intéressé à embarquer dans cette aventure-là? Puis je dis, bien, je viens pas de Québec. Puis je connais pas. Non, mais c'est vrai, je connais pas. Puis lui, tu sais, j'ai fait comprendre. Quand tu vas à New York, il y a l'État de New York, ouais, la ville de New York. Il y a Québec, il y a la... mais moi, je viens de l'Abitibi, Val-d'Or. Fait que, you never been to Quebec City? Well, je suis allé aux Jeux du Québec à Charlebourg en 85. Well, yeah, there's a stadium there, puis là, il me convainc tout ça. Puis la deuxième partie...
Ah, parce que la corvée a été faite à ce moment-là, donc est-ce que c'est ça, tu penses, qui lui a mis la puce à l'oreille?
Oui, ben en fait, il est venu visiter le stade
ouais,
2 ans, je pense, auparavant, puis même cet été-là, puis lui... Il s'installait à Québec, là, puis il disait, j'ai besoin d'un francophone comme toi.
OK.
Puis l'autre question que je me pose, c'est que si c'est fragile à ce moment-là, parce que dans ma tête à moi, je suis encore pas pire, puis j'aimerais ça signer un contrat 2A, 3A, puis peut-être qu'un jour, ben j'ai l'impression qu'il me dit, faudrait peut-être que tu passes à autre chose.
T'sais. Et il voulait que tu sois quoi? Est-ce qu'il voulait que tu sois gérant? Est-ce qu'il voulait que tu sois joueur?
Non,
que...
joueur, mais impliqué dans un bureau. Impliqué d'un bureau avec lui à partir de la naissance de Janelle, qui allait naître la mi-octobre, puis après son déménage. Et écoute, ça m'a vraiment brassé de deux façons. C'est que c'est-tu le temps que je pense à faire autre chose, puis que quelqu'un te le dise en pleine face, il dit non, 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 non. Il dit best of both worlds. Fait que on travaille des bureaux en septembre, octobre, novembre, puis on fait tout ça. Et quand arrive la saison, tu redeviens joueur. Fait que je veux dire, je me souviens encore de revenir avec Francine à l'appart puis de dire, écoute, j'ai eu un offre aujourd'hui. On pourrait peut-être déménager à Québec, rester là, puis j'aurais une vraie job parce que t'as pas de vrai job depuis 10 ans parce que ce que tu fais, tu joues au baseball puis tu les 4 mois d'hiver, ben tu trouves une job-in pour...
joindre les deux bouts.
Ouais, exactement.
Il faut vivre, tu sais.
Fait que finalement, la réponse a été oui. Janelle est venue notre première au monde le 11 octobre puis je suis déménagé à Québec le 15 octobre. Et là, puis je sais qu'on va en parler, Carl, tout ça, parce que toi, t'étais déjà présent, mais moi, ça fait quand même 7-8 ans que je joue aux États-Unis dans des beaux parcs de balle. Puis c'est assez beau, oui. Tu sais. Et quand j'arrive à Québec le 15 octobre, puis j'arrive au stade, puis je me souviens plus qui est autour. Mais Mars, il regarde le terrain, puis il y a d'autres personnes, puis il dit « C'est beau, hein? C'est beau. » Et c'est lettre. Sérieux, là.
On le voit sur les photos de l'époque. Tu sais, le stade aujourd'hui, comparé au stade d'il y a 25 ans,
oui, ben oui.
C'est pas la même chose. Là. La qualité surface... du terrain était
pas ça. C'était exécrable. Ah. Puis la clôture verte, vous vous souvenez, en ouais. Vert. Là, tout de suite, tu dis comment on va mettre les panneaux là-dessus. Après ouais. Ça, le terrain. Mais le terrain, pour une équipe junior qui joue au Québec, il était plus beau que les autres terrains. Fait que les gens avaient l'habitude de dire il est beau le terrain à Québec. Mais il fallait avoir pas mal d'imagination pour le trouver beau. Dans le sens que un coup qui va être bien habillé, il va là. Mais Mars, lui, il était convaincu qu'il y avait quelque chose. Puis qu'il fallait juste le travailler, puis tout ça, donc...
La résilience, c'est lui, Miles, aussi, là.
C'est lui qui a eu raison, au final, d'abord, puis oui, la résilience, parce que lui, là, il a beau avoir réussi à convaincre Michel Laplante de s'amener à Québec pour gérer un peu, puis jouer aussi, il faut en amener 24 autres aussi, des joueurs à Québec, puis leur dire, hey, les gars, ça vous tente-tu de venir jouer ici, dans un marché qui n'est pas tout à fait naturel? Lui, effectivement, Marzo, je pense qu'il y a eu...
À... Dans un marché qui ne connaissait pas le baseball indépendant.
C'est vrai.
Que son souvenir du baseball, c'était les carnavals. C'était le fait que Gary Carter a joué avec les carnavals. Puis c'est cette génération-là qui ont atteint les ligues majeures, mais... Le baseball indépendant, c'est pas ça.
On avait les. Mais non,
on se dit pas, OK, les capitales, ils signent un joueur, lui, il s'en va jouer dans les majeures. Il a fallu apprivoiser le baseball indépendant apprendre à connaître à nouveau le baseball affilié, le baseball mineur.
Savoir comment ça fonctionnait.
Parce que les joueurs, OK, ouais, lui, c'est un joueur qui arrive du A. Ouais, ben, il est plus bon, il est plus dans le A. Ça veut pas nécessairement dire ça. Ouais. Si le joueur est libéré, Parce qu'il était rendu trop vieux pour le niveau où il était, mais ça n'est pas moins bon qu'il était.
On sortait des rafales, il n'y a pas longtemps, on sortait des rafales.
Il y a eu des mauvaises expériences.
Expérience, c'est ça, assez ordinaire. Ouais. On a appris ça sur la fin, que ça avait été juste correct. Dans le terme de baseball à Québec, ce qu'on avait eu, puis c'est pas rien, là, mais c'était Alouette-Diamant, qui était une immense rivalité, mais c'est toujours bien du baseball junior. Là, on passe à l'autre étape.
Mais tu avais quand même... Moi, je pense que c'était quand même une ville de baseball. Tu avais quand même une base d'amateurs... importante parce que si tu mets 3000 personnes pour un match diamant Alouette au stade incroyable. Municipal, c'est qu'il y a de l'intérêt.
Ouais.
Hein? Puis les carnavals avaient connu quand même un succès assez important.
Avec des joueurs marquants.
Puis les Indiens ont marqué l'histoire aussi.
Mais quand on regarde le temps pareil, là, parce que moi je l'ai vécu différemment, je suis pas de Québec quand j'arrive, mais tu sais, le départ des Nordiques, ça fait juste 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans.
Oui. Ouais.
Bon, puis les rafales, tu viens de mentionner les rafales. C'était down, sérieux, là.
Ah, le mood à Québec était terrible. Ah, était fin 90, beau. Début 2000, c'était pourri, là.
Ah, le rouge à or venait d'arriver.
Mm-hmm. Oui.
Et je pense que le Québec sportif là, était en train de se reconstruire. Ouais. Alors, les capitales ont...
Les remparts arrivaient. Les remparts
avaient recommencé à connaître du succès avec la Renaissance. Puis, ça a permis.
Mais les débuts, là, puis, tu sais, faut dire aussi que j'ai aucune expérience. J'étais un ancien joueur de baseball. On était avec Stéphane Dion, Jean-François Côté d'un bureau. Puis, tranquillement, Nicolas Labbé se greffe au groupe. Mais les appels, les listes, là. On avait des listes à des gens à qui on devait vendre des billets de saison. Puis. Et le nombre de fois que j'ai fait donc vos preuves. Puis moi, j'ai donné de l'argent pour le Rafale, j'en ai pas eu. Non. Puis propriétaire américain. Les gens voulaient que c'est un propriétaire américain. Puis là, on essaie de le vendre, tout ça. Puis moi, je me souviens parce que quand j'avais un nom, puis j'en avais 9 sur 10, j'accrochais, puis là, je fixais le mur. Puis là, j'étais découragé parce que, tu sais, j'étais pas ça dans la vie, j'avais jamais fait ça. Puis là, Stéphane, il disait, non, tu reprends un appel, puis t'en refais un autre. Mais tu sais, j'avais de la difficulté à accepter. Puis après ça, il fallait se convaincre qu'il y avait une histoire baseball. Puis pour le vendre bien, non, ça va fonctionner. Puis tout le.
Et c'était du monde que tu connaissais pas.
C'est ça. C'était des cold calls. Dans le fond, je connaissais personne à Québec. Je connaissais pas.
Puis là, revenons sur attirer des joueurs parce que j'ai vu les visages changer. au tournant des années 90-2000, amener des joueurs de baseball professionnels à Québec qui ne sont pas originaires du Québec. Ceux du Québec, je pense qu'ils devaient être parlables. Tu sais, ça devait être quand même moins pire l'approche. Mais honnêtement, tu appelles le gars qui est natif de la Floride ou je ne sais pas trop quoi.
Ben, c'est pour ça que l'embauche de Jay Ward a aidé, parce qu'il y avait quand même une crédibilité dans le domaine du baseball. Il avait été coach avec, avec les Yankees.
Mais c'était difficile quand même, parce que la réputation des expos à ce moment-là, qu'il n'y a pas beaucoup de monde, faisait que même les Américains voyaient à travers les nouvelles, « Ah, ça ne pogne pas le baseball au Québec, il y a juste 7-8 000 au Stade olympique. » Donc ça aussi, ça faisait partie de l'ensemble. Puis c'est une nouvelle équipe, peu importe où, c'est difficile. Donc, Jay Ward a été engagé effectivement pour ça. Puis Jay Ward, pas juste des Yankees, il était à Thunder Bay avant, il avait une capacité avec le baseball indépendant. Miles Wolf, pareil, tu sais, Jay Ward se servait en disant Miles Wolf, qui est commissaire de la Ligue, était aussi propriétaire à Québec. Donc, puis il est arrivé... Moi, j'étais celui qui était à la recherche des appartements pour les joueurs, puis j'avais beau chercher à Québec, puis je trouvais ça difficile. Et je suis allé à Stoneham, je marchais là, puis il y a un monsieur qui me voit, puis il dit « Qu'est-ce que vous faites ici? » Ben, j'ai dit « Je cherche des appartements pour qui? Pour des joueurs de baseball. » Puis finalement, ça a fonctionné. Et ça, dès la première saison, que les joueurs restent dans un ski resort, puis qu'ils sont dans la nature. Oh. Et rapidement, ça s'est bien
transmis. Que les joueurs étaient bien traités ensemble ici.
Oui, on mettait l'effort là-dessus, autant pour tout ce qu'on avait vu dans d'autres équipes indépendantes ou même les traitements au niveau médical. Puis ces choses-là, on a mis beaucoup l'emphase sur les petits à côté comme ça. Puis ça a fonctionné. Puis moi, ce qui était drôle, c'est que j'ai participé avec Mars pour engager Jay Ward. Et après ça, moi, je me retrouve sur le terrain comme joueur. Donc, c'était vraiment, vraiment bizarre. Puis lors du premier match, le 4 juin, je me souviens, j'ai le walkie-talkie juste à côté du monticule en train de m'échauffer. Puis Nicolas Labbé court partout, puis tout le monde. Puis on, tu sais, préparer une première saison, là, c'est pas évident. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de baseball. Puis à un moment donné, je me retourne, puis je me dis, ah, le drapeau américain n'est pas là. Fait que là, sur le walkie-talkie, qu'est-ce qu'on fait? Puis toute la quête, à un moment donné, Jay Ward est sorti, fâché, il était rouge comme une tomate, puis il dit, you gotta throw in a few minutes, tu lances, c'est là-dessus que tu mets l'emphase, puis laisse faire les autres affaires à côté, puis toute la quête. Puis ça a été tellement, tellement un privilège, puis trippant de participer à tout ça. Puis, tu sais, c'est ce qui est beau dans la résilience, c'est quand t'as l'impression que t'as réussi malgré tous les obstacles devant toi. À arriver à ce produit-là, finalement, ben, t'en es tellement fier. Là,
donc, c'est surtout un produit que personne ne connaît.
Ouais.
À Québec, à part les initiés, là, à part ceux qui
se souviennent d'il y a 30 ans. Puis encore
là, c'était ceux qui étaient déjà un petit peu dans le milieu, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a Michel, Jay, puis ce personne-là. Mais les amateurs, là, ils découvrent ils comparent avec les diamants puis avec les alouettes. Et ils ne savent pas trop c'est quoi là, ça, le baseball indépendant. Ouais. Là, alors, en tout cas, nous, au soleil, quand on couvrait, ben, on a mis beaucoup l'emphase sur faire connaître les joueurs, faire connaître le calibre, expliquer un peu expliquer c'est quoi ça le baseball indépendant, parce que c'est ça le produit aussi. Là,
qu'il faut. Mais tu sais, on arrivait en bâton de bois, fait que le crack of the bat, là, le son du bâton, je pense que ça avait séduit les gens. Il avait été impressionné quand même par le calibre qui avait été démontrer tout ça. Puis pour nous, à l'intérieur, pour les employés, d'avoir une personne comme Mars qui avait remonté les Bulls of Durham. Les Bulls of Durham, là, t'es pire que le Stade à Québec, là, quand Mars a remonté. Là, cette histoire-là est aussi belle. Puis de savoir que quelqu'un l'a déjà fait, puis il l'a fait avec plein de vieux stades. Pis...
C'est rassurant, ça?
Ah, c'était très rassurant. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a embarqué. Même si parfois, quand Mars n'était pas là, on disait... Je pense qu'il ne comprend pas la réalité à Québec, puis il la comprenait. Mais dans sa tête à lui,
Fallait y aller par étapes. Ouais. Hein?
Puis si on peut juste regarder, là, on est à la fin des années 90. Souvenez-vous de ce qui était développé en marketing sportif dans les années 90. Si vous regardez les Diamondbacks de l'Arizona, c'est cartoon. Ouais. Si vous regardez les Marlins de la Floride, c'est du cartoon. C'est un marlin avec dans le bleu, tout ça. Donc, on s'en allait vers ça de plus en plus un peu partout. Et Maz, puis Michel inclus, Michel Wolff, décide que non, non, c'est un stade traditionnel.
On y va dans le traditionnel.
Et on s'en va dans le traditionnel et on va faire revivre le baseball d'antan. Il allait complètement à contre-courant de tout ce qui se faisait. On s'en allait dans une vague, puis lui, il a dit non. Faut, c'est pour ça qu'on est en pinstripe.
T'sais, ça c'est fait Yankees, pareil, hein?
C'est ça. Que ça va être capital, ça va être un logo simple. Il voulait tout aller dans ce qui était très simple, puis c'est un bijou, ce stade-là. Les gens vont redécouvrir le bijou qu'ils ont parce qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils ont. Et il disait ça constamment. Les gens, c'est ce qu'ils vont réaliser qu'à Québec, ils ont quelque chose qui est unique. C'est un des plus vieux stades encore.
Et puis c'est ça qu'on dit aujourd'hui. Ouais. C'est on exactement aujourd'hui. Ce qu'on dit aujourd'hui.
Mais il l'avait dans la tête il y a 25 ans. Ouais. C'est incroyable.
Tu sais, bref, là, s'il n'y a pas de Miles Wolff, s'il n'y a pas la résilience de Miles Wolff, il n'y a pas de capital.
Pas proche.
Et ça ne dure pas.
Non. Non, parce que
il y a une résilience financière aussi, Miles, là-dedans. Ouais.
Parce que la première année, ça va être moyen. La deuxième année, ça va être moyen. La troisième année, ça va commencer à être popé. La quatrième, la cinquième, ça va piquer. Et lui, il sait tout ça. Fait qu'un boxeur qui a mangé déjà des coups en quatrième, cinquième, sixième, septième round, ben il sait ça fait quoi après son je sais pas combien de combats. Puis il trouve que c'est normal. Puis là, il est prêt à aller dans
il n'y a pas de surprise.
Se rendre jusqu'à la fin. Il n'y a pas de surprise. Mais tu sais, c'est un peu ça, Miles Wolff. Les coups, il les mangeait, puis il savait qu'il arriverait telle situation. Puis on dirait qu'il savait déjà la ligne du temps. Il savait déjà où ce qu'elle s'en allait.
Mais même à ça, c'est vrai ce que tu dis. La résilience financière, ça a été long là, avant de faire du profit ou de break even seulement.
Ouais.
C'est des années. Là.
Ouais,
tu sais, ça prend des gens qui croient à ces projets-là, des gens qui se disent effectivement, on baisse la tête, on s'en va par là, puis on sait que ça va marcher. Mais on va manger nos bas pendant un certain temps.
Puis je pense qu'il connaissait aussi l'importance du marché de Québec dans le développement de la Ligue. Parce qu'il était aussi commissaire de la Ligue. Alors, ça lui prenait des marchés solides. Puis lui, il n'était pas pour arriver commissaire de Ligue puis dire, j'ai essayé dans la ville de Québec, puis ça marche pas, je m'en vais. Tu fais quoi pour convaincre d'autres villes de te joindre à la Ligue à ce moment-là?
Mais Carl, c'était pas toute logique. Tu sais, comme ça.
Ouais.
Tu sais, c'était pas. Mars plaçait pas toutes ses pièces en se disant ça va être bon pour ça. Il a pogné le coup de foudre à Québec.
Okay.
Et ça, ça l'a ramené à faire des folies parce que il aime trop ça. Puis il en parle encore aujourd'hui. Écoute, il y a eu des succès dans plein de choses.
Ouais.
Son bébé demeure encore Québec.
C'est ça.
Il me l'a dit la semaine passée encore pour lui.
Mais pourquoi plus Québec que tout le reste?
Il y a quelque chose qu'il aime avec la culture. On parlait de passé, où le stade est installé.
Ouais.
Ça représente vraiment la vision du baseball dans une économie, dans une société. Donc, lui, il a toutes ces racines-là. Puis, tu sais, on construisait des stades pour... Le baseball, on le joue tous les jours parce qu'on veut s'assurer que les travailleurs, quand ils finissent de travailler, ils ont quelque chose à faire tous les soirs. Donc, c'est supposé être abordable, c'est supposé être situé dans
proche
des endroits proches du monde, proche du peuple. Pour lui, là, tous ces facteurs-là faisaient que il perdait, puis là, yeah, but it's gonna work next year. Il revenait, puis les années qu'il croyait plus, ben là, nous autres, on était là pour lui dire, non, ça marchait. Écoute, si on fait juste faire un peu plus de profit là, on coupe à telle place.
Mais c'est arrivé?
On est prêt. Ah, c'est arrivé trois reprises.
Non, hein?
Ouais.
Ouais. Es-tu capable de nous situer ça dans le temps à peu près?
Oui, l'année, suite à l'année 2004, l'année 2004-2005.
Ça, c'est le retour vers le bas un petit peu.
Le retour vers le bas, à un moment donné, Mars, il l'avoue, il dit là, je suis plus capable, on a perdu un autre 75 000, puis tout ça. Puis moi, je me souviens que je dis, moi, je vais combiner mon salaire de DG avec celui de coach. Après ça, j'ai dit, puis est-ce que tu veux me donner des actions? Il dit, Michel, ça vaut rien. tu vas faire quoi avec rien? Ben, j'ai dit, je sais pas, mais on peut-tu faire quelque chose? Puis après ça...
Fait que quand lui a descendu, vous êtes tombé en mode solution. C'est intéressant pareil, ça.
Ouais, ouais. C'est arrivé souvent, mais il était pas si dur à convaincre que ça.
Okay.
Tu sais, je veux dire, c'était fait. Puis là, je sais pas à quelle place qu'ils amenaient. Ils ramenaient pas à Bangor. On les bougeait, mais... Mais finalement...
On bougeait capitaine?
Oui. À partir de les années là, 2004-2005-2006.
Quand la vente a avorté aussi, je pense.
La vente a avorté. Puis tu sais, dans l'ordre de tout ça, là, mais dans ces années-là, Il y avait aussi l'impression qu'on avait bien fait les choses, puis malgré ça. Puis là, le 2006 a donné un petit boost parce qu'on a gagné,
ouais.
puis on n'était pas supposé, puis tout ça. Puis là, il y a comme le déficit a été moins gros. Mais,
ouais, puis la philosophie de l'équipe a changé aussi, parce que tu es ouais. arrivé à, t'sais, comme gérant,
ouais.
puis là, tu as commencé à instaurer... Parce qu'une philosophie, on peut l'avoir, là, mais elle s'installe pas du jour au lendemain.
Ben moi puis d'autres personnes, là, je veux dire, les ouais. gens, on croyait que... Ouais, mais si... Parce que comme je dis, on faisait toujours la petite règle de trois, ben ben simple, puis mince, il n'y a pas ça. Puis c'était, OK, mais imagine si on coupe 65 000 dans le payroll-là. Là, t'as-tu vu, il y a un commanditaire cette année qui veut rentrer, c'est quand même 30 000 de plus, puis lui, il nous aide, on peut-tu faire telle chose? On s'est formé dans ces années-là un comité pour le corporatif, un comité d'hommes d'affaires. Ça, Mars, il aimait ça. Et ces hommes-là, on leur a averti, on a besoin de votre aide pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et on se réunissait quoi? Une fois par mois, une fois par deux mois.
OK.
Et Mars a très apprécié parce que ces gens d'affaires-là, incluant Jean Tremblay, ces gens d'affaires-là sont venus dire à Mars, tu pars pas là, on est là, okay. que s'il y a quelque chose, on va t'appuyer. Là, ça l'a comme, tu sais, ça
l'a rassuré.
Ça l'a rassuré.
Il ne se sentait pas tout seul.
Ouais. Puis je suis content. Okay. Ben, tu sais, on viendra, mais un peu de cogneur, mais quand on est arrivé dans les années 2007, 2008, 2009, puis là, quand il est arrivé Éric Gagné, on est allé dans le profit pour la première fois. Ouais. Et après ça, est-ce que ça allait donner un momentum? Il y a eu toutes sortes d'idées qui ont été bonnes. Celle de Jacques Doucet, il reste quand on a amené Jacques, ça a créé de la visibilité. Oui. Jacques a commencé à bien parler. Puis ça, c'est quoi, 2006?
2006.
2006, la première année. Ouais. Donc ça, ça a donné un petit coup de pouce aussi.
Donc, dernière année avec les expos, un an de break, puis retour en 2006. Ouais. De mémoire, c'est ça, effectivement.
Ouais. Et on n'a jamais souhaité le départ des expos en 2004, mais il demeure qu'après ça, on se disait... Les gens vont sûrement vouloir regarder du baseball. Si t'es à Montréal, c'est à Trois-Rivières. Si t'es à d'autres endroits, tu vas souhaiter. Fait que il y avait toujours un petit pitch de vente à faire à Mars. Que si t'attends l'année prochaine, d'après moi, ça va virer de bord. Puis
ça, c'est tombé en même temps que qu'il y a eu beaucoup de bons joueurs québécois.
Ouais.
qui se sont retrouvés avec les capitales.
Ben, j'en ai plusieurs des pivots comme ça dans l'histoire qui, à mon avis, ont aidé à surmonter là, cette épreuve-là de résilience, dans le fond. T'sais, Michel Laplante, le joueur, Michel Laplante, le coach, l'arrivée d'Eddie Lantigua, la séquence de joueurs québécois, Carl, tu as tout à fait raison, je pense que c'est crucial avec les championnats. Ça a été, c'est ça l'affaire aussi, c'est que ça a été mélangé avec plusieurs championnats. L'arrivée d'Éric Gagné... La nouvelle surface, on en reparlera parce que ça, c'est clair que c'est important aussi. Mais tu sais, il y a plusieurs pivots comme ça au fil de l'histoire des capitales qui ont redonné le petit coup là, vers le haut, puis donné une chance, puis donné le goût de continuer.
Puis des fois aussi, c'est arrivé dans des saisons plus tranquilles au niveau de la Ligue. Puis la saison de Dylan Tigua de 31 circuits, on ne parlait que de ça.
Ouais, ouais.
Ça, c'est pas grave si c'était une Ligue à 5-6 équipes, là. Tu sais, c'était la saison d'Eddie Lantigua. 2006, c'est pas une année flamboyante au niveau de la Ligue, mais c'est le premier championnat des capitales. Alors, il y a tout le temps eu quelque chose, la rivalité avec North Shore, la rivalité avec New Jersey, même si c'était pas une Ligue à 8, 10, 12 équipes, ça créait quelque chose.
Ben, la rivalité, la plus grosse rivalité des capitales aujourd'hui, c'est encore New Jersey, si je ne me trompe pas. Là. C'est encore l'équipe à battre à chaque année.
Ouais, North Shore, c'était quelque chose aussi, Michel.
Ouais, North Shore, c'était...
Mais les gens, ils s'abreuvaient de ça. Ils aimaient haïr ces équipes-là. Fait que ça venait compenser le fait que la Ligue n'était pas encore très solide, puis ce qu'elle est devenue
mais aujourd'hui. Imaginez, parce que il faut quand même y penser, là. Fait que là, les soucis de Mars au niveau de son équipe, mais il est commissaire de la Ligue, ben OK? Oui. Puis il est le créateur du baseball indépendant, mais dans son bureau, là, d'arriver, là, puis là, d'entendre une partie des discussions avec chacun des propriétaires. Puis oubliez pas que quand il... Non, mais c'est fou ce que le monsieur, dans une journée, il... Mais imaginez-vous aussi que il se demande si son équipe va passer, parce qu'il faut qu'il chip de l'argent, mais... Il y a le propriétaire, Sam, puis Pete, puis John, qu'eux autres, ils demandent toutes des choses, puis eux autres, ils vont dessus. Puis là, on tombe-tu impair? On tombe-tu pair? Puis il y a des années qu'on a été 10 pareil. Hein? Je pense que 2006, on était peut-être 8, 10, on roulait comme ça. Mais il y avait toujours une inquiétude que, tu sais, si jamais l'équipe lâche en milieu de saison là, dans du baseball, tu fais quoi? Fait que là, c'était des rencontres avec des maires de ville pour aller garantir qu'il y avait des systèmes, tout ça, des chicanes avec des propriétaires de d'autres équipes, des cas de coach qui se plaignent parce qu'il y a une suspension. Donc, Mars devait avoir une pensée constante à tous les niveaux, là. Fait que...
Puis il ne pouvait pas avoir de parti pris. Il y en avait un de cœur, mais.
Non, dans ta gestion, tu as raison. Tu peux pas avantager une équipe pour une autre. Puis, tu sais, tu parles du nombre d'équipes. C'est vrai que par certains moments, on ne trouvait pas ça grave, mais c'est quand même une critique qu'il a fallu surmonter au fil des années, à un moment donné, de dire ah, là, votre ligue a 4 ou 5 équipes, me semble que.
Il y a d'autres ligues aussi qui ont. Il y a d'autres ligues aussi qui ont eu ce problème-là.
Puis on a réussi à passer
par-dessus. La qualité du produit puis la qualité de l'équipe vient compenser le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes là.
Mais on l'a entendu, la critique au sujet de New Jersey tout le temps ici. Puis, c'est plein de petites épreuves comme ça qui, quand on réussit à les surmonter comme c'est le cas actuellement, on est dans une ligue à 16 équipes, c'est quand même pas banal non plus comme changement aussi.
Mais le calibre était supérieur. C'était quand même un très bon calibre, là, même s'il y avait 4 ou 5 équipes seulement fait. Dans la ligue. Là.
Tout à fait.
Mais c'était pas un calibre inférieur.
Ouais, je trouve que si il y a quelque chose quand même qu'on a bien fait dans l'organisation, c'est que on était conscient quand on est descendu à 5, que nous aussi, on n'aimait pas ça, puis on s'en cachait pas.
Ouais.
Si vous regardez, puis on nous en parlait, puis on disait effectivement.
Ouais.
Puis au lieu de dire non, c'est pas grave, puis tout est correct, on le disait qu'on n'aimait pas ça, nous aussi, mais on avait quand même du baseball. Puis peut-être qu'à rester un jour, on allait en avoir 8 stables, puis 10 stables, parce que ce qu'on regardait en avant, le potentiel, était là. Donc, je trouve ça correct de ne pas l'avoir vendu de façon exagérée, disant « c'est pas grave ». Oui, c'est vrai, mais quand même, on a du baseball, puis on n'en a pas eu pendant 20 ans. On n'a plus d'équipe de hockey. Est-ce qu'on pourrait au moins apprécier le fait qu'on ait, puis il n'y en a plus à Montréal? T'sais? Puis je pense que les gens ont quand même... accepter ce bout-là.
Regarde les foules là, dans certains matchs de séries éliminatoires, de finales, où tu sais, le match au mois de septembre contre New Jersey, encore une fois, même s'il y a juste 3-4 équipes d'éliminées derrière nous, ce match-là, ce soir-là, pour un championnat, tu sais, c'est pas banal. Sauf banal.
Mais c'est ça, parce que les Capitals ont quand même offert quelque chose d'intéressant malgré ça.
Ouais.
Ça fait que les gens, ils se sont attachés au capital, puis on dit, OK, on va leur faire confiance finalement. Ils n'ont pas abandonné, puis il n'y a pas eu de... Ils n'ont pas lancé la serviette. Là, ils vous ont fait confiance, mais vous leur avez offert quelque chose.
Ouais, je pense qu'à chaque année,
il y avait tout le temps de quoi.
Ouais, il y avait toujours une histoire, il y avait toujours quelque chose. Même l'année 2005, c'est la séquence d'Eddie, on se rend quand même en finale. La 2006, on se rend pas. L'année 2007, quand on parle de résilience, là, dans la même semaine, on a perdu Patrick Scalabrini, Pat Deschaine, Goffrey s'est blessé. En tout cas, on a eu 4-5 joueurs blessés dans la même semaine, puis à ce moment-là, on va bien. Puis je me souviens, Mars vient dans mon bureau, puis il dit si on veut finir l'année en force, on n'a pas le choix d'aller chercher des joueurs. Puis j'ai dit non. Puis là, il a dit je me souviens, là, la porte est fermée. J'ai dit non. J'ai dit cette année-là, on la laisse aller. Il dit what? J'ai dit on la laisse aller. J'ai dit ce noyau-là, là, c'est notre noyau des prochaines années. Puis tu te souviens, hein, parce qu'on en parlait, puis Mario aussi était là. Puis, tu sais, je consultais beaucoup. Carl, je le voyais tous les jours. Je voyais Maurice tous les jours. Je voyais Mario. Puis, on trouvait que ça avait du sens de dire, écoute, si jamais ces gars-là reviennent dans les prochaines années, là, ça a l'air de quoi. Puis, je me souviens, on n'a pas été signé d'autres joueurs pour se débarrasser d'eux autres. On les a gardés un peu blessés. Il y en a qui jouaient avec une prothèse, autre, tout ça. Puis, on était évidemment, on n'allait pas gagner en 2007. Mais ce que ça a donné pour 2008, 2009, 2010, 2011, après ça, c'est ces joueurs-là qui sont restés, ils ont apprécié la fidélité. Tout ça. Puis Mars, on vivait, c'est drôle, on vivait le travail posé. Donc, c'était tout ce qu'il avait vécu dans sa vie. C'est un gérant qui fait juste dire, j'ai besoin de joueurs, on va aller chercher ça. Puis l'autre qui dit, ben écoute, on n'a pas les moyens, il slack. Et à toutes les fois que Mars m'amenait quelqu'un, je disais non, je garde les joueurs. Là, il disait, tu peux pas. À un moment donné, c'est parce que tu l'aimes, parce que tu es proche de lui.
Qu'est-ce que tu comprends pas, Michel Laplante?
Puis en même temps, on avait accepté d'avoir cette relation-là où il avait le droit de dire son mot. Puis dès le début de l'année, je me suis en 2005, j'ai dit, je suis en train de faire mon alignement. Mars, tu ferais quoi, toi? Puis il dit, you're asking me? Il dit, ben, ça fait 30 ans que tu regardes du baseball, tu dois avoir une idée de ce que tu fais. Puis ouais. J'y crois, non, mais j'y crois profondément. Ça ne veut pas dire que je vais finir par ça, mais il voit des games de baseball à tous les jours.
Non, Maurice, tu le fais encore aujourd'hui. Tu le fais encore aujourd'hui. Demandez à peu près n'importe qui. Qu'est-ce que tu penses parce de que ça?
Ben, Michel, là, c'était le... Michel, il faisait rien pour rien. Avant les matchs, là, on était souvent dans son bureau.
Ouais.
Là. Puis là, ouais, quel alignement que tu ferais? T'sais? Puis là, il nous demandait, fais-moi ton alignement pour aujourd'hui, mettons. T'sais? Fait que là, il faisait comme un consensus, puis il vérifiait. T'sais? Il allait à la chasse aux informations.
Ouais.
Mais t'sais, nous, là, on est dans son bureau. Puis c'est arrivé souvent, ça, là, pendant son séjour comme gérant. Mettons, à 6h15, 6h30, là, le match était à 7h. Bon, on va y aller, nous autres. Non, non, non. Michel, tu sais, non, non, restez, on a du fun. C'était comme... C'était une autre façon de faire du baseball. Ouais. Je pense que les joueurs, ils s'en sont aperçus aussi.
Oui, mais en même temps, j'y crois sincèrement que quelqu'un qui... Hey, tu sais, là, même si je suis un peu tête de mule puis je vais garder mon alignement, il reste que si Carl me dit... Moi, je peux juste dire ça, là, mais je comprends pas que lui, qui frappe toujours dans droite, fait toujours avancer, pourquoi que lui frappe pas deux? Là, tu pognes un deux minutes, dans le sens, comment ça que moi, je l'ai pas vu, celle-là, tu sais? Puis là, ben par égo, ça se pourrait que ce match-là, je fasse pas mon changement. Mais que le lendemain...
Deux jours plus tard, quand c'était un autre journaliste.
Je dis à mon assistant coach, « Ouais, je pense qu'on devrait faire jouer lui parce qu'il frappe là. » »« Ah ouais? » Puis là, ben tu sais, mais pourquoi pas? Dans le sens que rassemble tes idées, puis après ça, prends la décision. Mais de refuser de prendre l'information des autres, c'est de se mettre la tête dans... Fait qu'on faisait ça, puis Mars le faisait. Mais quand on est arrivé cette année-là, 2007, là, il a franchi un petit peu la ligne qui n'est pas supposée, dans le sens que, enfin, il est propriétaire, il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement...
C'était pas ça votre entente.
C'était notre entente. Puis là, il a finalement embarqué là-dedans. Puis là, ben, lui, c'est sûr qu'on ne fait pas les séries. C'est un manque de revenus peut-être pour un match, pour deux matchs, tu sais. Mais moi, je dis ça va porter fruit dans les prochaines années. Ouais. Puis comme défaite, après ça, on a eu un noyau de cette équipe éloi, de Pat Deschamps, de Pat Scalarini, de Michel Simard, de Goffrey qui est resté pendant des années. Après,
c'est Sébastien Boucher qui s'est ajouté.
Qui s'est ajouté c'est...
Puis après ça, Pierre-Luc Laforêt qui est arrivé.
Séquence-là, les gars, je ne suis pas fou. Là. C'est une séquence qui, sans dire, assure la survie des capitales pour des années par la suite. Ça a été crucial de gagner. Hey, c'est plusieurs séries éliminatoires. C'est d'instaurer la culture de championnat. Là.
Je les ai sortis, les chiffres. Là. C'est 12 finales en 18 saisons depuis la saison 2005.
Puis la victoire, on dira ce qu'on voudra, de Ligue à 4 ou à 16.
Là-dessus, je compte pas. Non, c'était pas une finale, Équipe Québec. Mais Équipe Québec, ça a amené... Il y a eu quelque chose aussi, là, pour...
Mais dans tout ça, là, on rajoute...
T'as 9 championnats de 17 ans.
On prend les résultats, là, mais on voulait s'impliquer dans la communauté, là. Imaginez que, bon, on part avec Eddie Lantigua, que ça a été le premier à donner du temps avec son sourire, avec son accent. Eddie était parfait. Mais après ça, ça arrive un Pat Daou. Pat, là, il était de toutes les cliniques, il était de toutes les... Puis si... Un joueur étranger arrivait puis il restait pas pour signer après la game. Là. Écoutez,
ça passait pas.
Ben non, ça n'aurait pas passé, je veux dire. Fait qu'ils ont ils se sont tous mis à s'impliquer, à rester à Québec tranquillement. Puis
à vouloir revenir aussi.
Ben oui. Fait
que là, les joueurs et...
Ouais. Fait que là, puis là, ils ont fait comme un entente de dire. Les gars, on joue-tu le plus longtemps possible ensemble, c'est un privilège qu'on a. Parce qu'ils ont passé par l'ABC. Puis là, il y avait tout un décalage d'âge. Puis il y en a un qui sait que... Hey, j'ai entendu parler de Pierre-Luc Laforêt, j'ai entendu parler de Pascal Abrini, parce que dans notre programme d'équipe Québec, ben si tu as joué... Si toi, tu as 16 ans, puis Pascal Abrini avait 18 ans quand il a passé, ben Pascal Abrini devient une petite légende. Ouais. Parce qu'il a déjà joué là, puis pareil. Fait que chacun d'eux autres, puis là, pendant...
Il était toutes les petites légendes de d'autres. Okay,
c'est
hein,
ça.
C'est hot,
il était toutes
groupe,
les
ça.
Petites légendes de l'autre. Et là, ils se regroupent, ils se regardent, puis ils font juste rire. Puis là, de dire, hey, c'est comme quand Pierre-Luc est arrivé, là. Pierre-Luc était une légende, là. Les circuits qu'il a fait à Clermatin, puis dans les parcs de baseball junior, tout ce qu'il a fait, là. On va voir Pierre-Luc Laforêt.
Ça, c'est le gars qui t'a dit non au départ, ça se peut-tu?
C'est moi, j'ai dit non, parce qu'à ce moment-là, j'avais des. Je m'occupais des bâtons B45, puis depuis 2006. J'allais pendant deux semaines en Arizona puis en Floride vendre mes bâtons.
Ouais.
Et je rencontrais les joueurs québécois à ce moment-là. Fait que j'avais un double duty dans le sens que ça me donnait l'occasion à présenter les bâtons aux équipes, de croiser un Québécois, Puis là, de parler de ce qui se passait à Québec. Fait qu'en même temps, ça créait des relations puis tout ça. Et Pierre-Luc, en 2007, il me dit « Je veux m'en venir à Québec. » J'ai dit « T'es-tu malade? T'as un uniforme du baseball?
Ouais, » T'es encore dans, oui. dans le baseball majeur.
Il venait, ouais. il venait de catcher un match parfait ou un match sans point ni coup ça dans le baseball majeur. Puis moi, ce que j'entendais parler de lui, c'est qu'il allait être le catcheur d'avenir et tout ça. Mais il était une phase où j'ai dit « Là, je suis allé dîner avec. » J'ai dit « Ça arrivera jamais que tu vas avoir un uniforme. » L'année d'après, il dit « Je pense que là, je serais dû m'en venir à Québec. » J'ai dit « Non, t'as un uniforme du baseball, tu t'en viens pas ici. » Et en début 2009, ouais. là, c'est là qu'il a dit, dans le camp d'entraînement, il m'en a parlé. Il était avec San Diego. En tout cas, il m'en a parlé, puis il dit, « T'aurais-tu une place pour moi? » J'ai dit, « On verra. » Puis quand il est redescendu 3A, là, il a appelé, puis il a dit, « Écoute,
je suis prêt.
Je suis prêt, puis je m'en viens. » Puis Éric a suivi 3 semaines après.
Puis c'est là que Pat Scalabrini a dit, « Je laisse ma place, ouais. puis je reviendrai ici. »
Mais pour revenir à le côté légende, là, oui. pour Patrick Scalabrini, là, quand j'ai dit « Hey, j'ai un appel de Pierre-Luc, puis il viendrait », c'était bien plus gros pour Pat que pour moi.
Ouais.
Pat, il dit « Pierre-Luc Laforêt! » Je dis « Oui, c'est impossible! » Mais Pat le voyait parce que, c'est ça, il avait déjà entendu parler de Pierre-Luc, tout ça, fait qu'il le voyait très, très...
C'est dans ces années-là, Michel, que tu as fait une visite au Monticule
ouais.
pour...
Pour rien.
Ouais. Puis t'attendais que l'arbitre s'en vienne.
Ouais.
Puis,
Je pense que c'était Yves.
C'était Yves Lamontagne. Ouais. Oui, tu disais, allume Yves, là.
Ouais.
Michel avait premier but à Québécois, deuxième but à Québécois. C'était seulement que des Québécois.
Juste des Québécois dans le diamant.
Même l'arbitre derrière le marbre.
Ouais. Ouais.
Alors Michel avait réuni tout le monde. Réalisez-vous qu'on est juste des Québécois.
Ouais. On est juste des Québécois.
Dans le baseball pro.
Dans le baseball pro.
Ouais.
Ouais. Je ne sais pas s'il y a des. Il y a des choses que j'ai le droit de dire ou pas, mais
on ne le comprend pas.
Mais il y a une séquence où Éric Gagné lance, puis Pat Deschênes est au troisième but, puis il a dit « Strike-là le tabarnak okay? ». Et fait que là, Éric, ça fait 15 ans qu'il n'a pas entendu ça dans le baseball professionnel. Fait que là, il fait une pause. Il se replace. Et là, En français, on dit souvent sur un changement de vitesse, hey, tire dessus, tire dessus.
Okay.
Tire dessus, ça veut dire lance ton changement de vitesse, puis tire sa corde.
Ramène ta balle un peu.
Ramène ta balle un peu, tire sa corde, fait que tu déjoues le frappeur. Mais c'est une expression qu'Éric n'a pas entendue, ça fait. Fait qu'il dit, il dit, ah ouais, Éric, t'es capable, tire sa corde, tire sa corde. Là, Éric, il a tout tapé, là, il est parti. Là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé au Monticule, il dit, écoute. Il dit, Michel, il dit, j'entends des expressions là, que j'entendais. Junior, j'ai jamais entendu ça. Il dit, je suis plus capable. Il dit, j'ai juste envie de rire. Fait que là, Pat, il était très drôle. Pat Deschênes.
Il était intense en tabarouette.
Hein? Ah, puis il en sort des bonnes, ouais. même. T'sais. Fait que là, toutes ces expressions-là, away, let's go. Je veux dire, c'était tellement drôle de s'entendre, puis on le faisait. Pierre-Luc Laforêt, il ressortait toutes ses vieux gags.
C'était une gang de chums qui s'est retrouvée.
C'était une gang de chums qui jouent ensemble. C'était très, très drôle. Honnêtement,
très belle camaraderie ouais. dans cette équipe-là. Ouais.
C'était très bon.
Ah ouais.
Les matchs interligues.
Ouais.
À un moment donné, on a vu ça comme étant une opportunité. C'est mm-hmm. aussi un défi. C'est-tu un heureux mélange des deux? Qu'est-ce que c'est davantage? Est-ce que c'est une opportunité ou un défi? Puis tu sais, je parle de matchs interligues, je peux parler de séries internationales. Là, c'est un peu la même,
ouais.
un peu la même réflexion derrière tout ça. C'est d'amener d'autres équipes, faire changement avec notre fameuse ligue à 4 ou 5 équipes. Là. Mais au-delà de la bonne idée d'avoir de nouvelles équipes, il y a de l'organisation derrière tout ça. Là.
On aurait aimé que ça fonctionne plus.
Ouais.
On croyait qu'on tombait impair. Donc en jouant toujours... Puis en sachant que l'American Association était impair,
ouais.
c'était une façon de dire...
Ça fonctionnait pour ensemble. Tout le monde, oui.
Ça fonctionnait. Et de notre côté, à nous, on croyait que la dépense en valait le coup. Plutôt que chacun ait une équipe itinérante, pourquoi qu'on ne le fait pas ensemble? Et malheureusement, l'autre côté, il trouvait ça... Il était hautain un peu en disant « Ouais, mais on veut-tu? » Puis le risque était...
Mais de l'autre bord, il y avait plus d'équipes.
Ouais.
La ligue était peut-être un peu plus solide, ouais, il y avait moins besoin. Ou 7,
puis nous autres, on était en tout cas, il y avait quelque chose comme ça. Mais,
okay.
mais puis nous, bon, on ne se le cachera pas, on voulait jouer contre Winnipeg. On disait que ça allait créer. D'ailleurs, quand on a joué contre Winnipeg, oui. ça avait pogné, puis on disait que ça va ouvrir les équipes canadiennes. Donc, mais eux autres étaient confortables dans leur ligue, puis pourquoi qu'on fait ça? En plus qu'on les bat, Tu sais, fait que ça, ça a comme. Il avait, on dirait qu'il se disait qu'il avait tout à perdre.
C'est à Winnipeg, c'est pas la naissance de
oui.
De l'Orignal.
Exactement.
Oui, ah oui, c'est là que c'est né.
C'est là que c'est né.
C'est encore le cas jusqu'à l'an dernier.
Ouais,
puis,
on avait eu un accueil numéro un par l'organisation parce qu'à Winnipeg, c'est top-notch. Mais on sentait de la part des joueurs qui jouaient que c'était arrogant. Ils nous regardaient et tout ça. Puis je me sens qu'on les avait. Je sais pas si on les avait balayés ou quelque chose comme ça.
Oh,
ça
oui, vous aviez connu beaucoup de succès.
Ouais. Ouais. On avait toute une équipe. Sérieux, là. C'était
que c'est vrai que le bruit qui courait, c'était que l'American Association, c'est tellement fort, puis on y touchera pas, puis finalement, ça n'avait pas été le cas.
Ouais.
Et Série internationale aussi, des défis pas mal. Tu sais, ça, c'est d'autres défis, par exemple, qui sont peut-être pas comparables, mais reste que l'idée est la même, de varier les équipes qu'on voit, d'essayer de... Non?
Oui, mais
sélection cubaine, là, où est-ce qu'ils voulaient ramasser quelques joueurs
d'après. Cuba, ça a été un succès, là, peu importe.
Oui, ça c'est sûr.
Mais avec la République dominicaine, ça a été un fiasco total parce qu'il n'était pas au sérieux. Moi, je trouve que le Japon, c'était une bonne idée au niveau des cultures.
C'était du baseball différent, vous
savez. Mais je ne pense pas que leur ligue, la ligue avec laquelle vous avez fait affaire au Japon, c'était le même niveau que le vôtre.
Je pense que c'est un petit peu en dessous. Non, mais tu as raison. Mais la vraie raison de tout ça part d'un meeting à New York avec la Ligue. Et on se fait annoncer le matin qu'il y a un propriétaire qui n'est pas là. Puis qu'on va tomber à 5.
Il ne sera plus là.
On va tomber à 5. Okay. Il ne sera plus là. Et on annonce-tu la fin de la Ligue? Et là, j'en parle pour la première fois parce que pour plusieurs raisons. C'est que tu ne veux pas démontrer d'instabilité dans ta Ligue. Tu ne veux pas dire à ton staff au mois de novembre que ça se peut que tu ne joues pas. Donc, puis là, je vous le confie aujourd'hui parce que là, on est 10 ans plus tard puis ça se raconte. Donc, c'était à une demi-heure d'être la fin de la Ligue. Donc, c'était terminé. Et...
Est-ce que ça aurait été la fin des Capitales aussi, donc?
Ben oui, je vois pas à qui on se serait attaché. On aurait peut-être pensé à s'en aller avec l'Atlantique. On est des années 2014, 15, 16 coin-là. Et nous autres, on vient de connaître 5 années de succès. On sent que les Capitales, pas juste parce qu'on gagne, mais les assistances montent quand même, puis tout ça. Et parce qu'on était, on se rapprochait avec Cuba, fait que moi j'ai dit, puis si on avait une équipe internationale qui rentrait avec nous dans tout ça? Fait que là,
tout le monde a froncé les sourcils. Oui,
mais vraiment, vraiment. Puis après ça, est-ce qu'on serait en mesure d'avoir Cuba pour une longue période? Puis finalement, la réponse, c'était non. Puis là, il y a eu un gros doute autour de la table. Puis j'ai dit, écoutez, je fais l'appel ce soir, puis je vous reviens le lendemain. Puis on est allé à Cuba quelques semaines plus tard. Et ces gens d'affaires-là qui connaissent quand même la relation entre les États-Unis et Cuba disent, écoute, avec l'embargo, jamais qu'on sera capable d'amener une équipe américaine ici. Puis là, j'ai dit, ouais, mais regarde au jeu, l'année passée, au jeu panaméricain, l'équipe cubaine a pu venir, en autant qu'ils ne soient pas salariés cubains. Là, il y avait des gros, gros doutes. Et finalement, quand Cuba nous a annoncé qu'il était capable de faire une tournée de trois semaines
de mémoire.
Comment on complète l'autre tournée de 3 semaines? On est allé chercher une équipe japonaise, on visait une équipe italienne. Et finalement, ça a fonctionné avec l'équipe. Fait qu'on a été capable de déguiser un peu une saison qui était sur le point de se terminer en...
Hey, on n'est pas longtemps après les championnats. Pourtant, je comprends que Québec, en général, on pouvait se dire que ça allait bien, mais il y avait toujours la Ligue derrière la tête aussi qu'il fallait... Ouais,
exact. On avait commencé avec quelques joueurs cubains. Puis ça, l'idée des joueurs cubains est partie des bâtons, parce que les Cubains achetaient des bâtons par l'entremise d'un homme d'affaires au Québec qui achetait des bâtons. Puis il disait... Il en voulait 13 à la douzaine. Là. Toutes les fois qu'on en faisait, tu peux-tu me faire un deal parce que c'est pour les Cubains? Puis à un moment donné, mais pourquoi pour les Cubains? Qu'est-ce qu'ils ont? Ben, ils ont besoin de bâtons, puis je les envoie là. Mais toi, pourquoi tu les envoies là? Fais un voyage, 2 voyages, 3 voyages pour aller comprendre. Puis là, c'est là qu'on a développé la relation de faire amener des jeunes vivre l'expérience cubaine. Après ça, ça serait le fun d'amener un joueur. Donc, Gourriel a été le premier. Et on tentait de colorer un petit peu notre... les Capitales ou la Ligue, afin que ça demeure toujours intéressant pour les gens.
C'est ce que je disais. Ouais. Vous avez toujours offert quelque chose de plus, malgré le fait que la Ligue était peut-être pas...
Solide.
Mm. Mm. Oui. C'est pour ça que ça a passé. Puis, les gens, ils regardaient pas la Ligue. Mm.
Tu as soulevé l'enjeu de calibre il y a un instant, pareil. Ça, c'est pas banal non plus, l'enjeu de calibre, que ce soit dans les séries internationales ou les interligues.
Ouais.
Ça, c'est aussi un élément qui a été ben, je dis souvent relevé, peut-être pas tant que ça, mais que nous, on devait avoir, quand je dis nous, comme si j'étais dans l'organisation des Capitales, moi, je décris les matchs, puis c'est bien en masse pour moi, mais vous devez avoir ça derrière la tête aussi. T'sais. Si on présente 6 games en ligne qui finissent 10-0, on n'est pas mieux barré non plus. Fait que c'est un espèce de gamble, c'est un tir à pile ou face là, de faire ça. Est-ce que vous aviez des garanties sur le calibre quand vous avez amené ces joueurs-là? Ces équipes-là, excuse-moi.
Ouais, l'équipe cubaine, on le savait, qui était fort. On pensait qu'il allait être plus fort.
OK.
Puis en même temps, on l'a vu par Éric Gagné. Éric qui faisait les calibres, puis Pierre-Luc aussi, il a dit que c'est beaucoup plus fort que ce que les gens pensent, le baseball indépendant, pour plusieurs raisons. C'est que, oubliez pas, là, quand on vante le A puis le 2A pour avoir joué, là, ça lance fort, puis ça court vite, ça ne sait pas jouer à balle, c'est parce que ça a le 20, 21, 22 ans. Puis la même affaire que vous allez voir un match universitaire aux États-Unis, puis vous dites c'est donc bien fort. Mais aussitôt que tu joues, moi je me souviens d'avoir fait un match d'exhibition contre eux autres et c'est facile, là. Dans le sens que oui, ça swing fort.
Les habiletés, c'est une chose, mais.
Ah, c'est entre un joueur de 20 ans et un joueur de 25 ans qui a joué 500 matchs professionnels de plus, il y a un écart qui est incroyable. Et oui, le joueur universitaire est capable de frapper une balle à 420 pieds contre un joueur universitaire.
Ouais.
Es-tu capable de le faire contre un joueur pro que la balle elle bouge plus et est mieux cachée? Non.
Avec un bâton en bois?
Avec un bâton en bois. Donc, c'est. Il y a un énorme écart dans tout ça. Et la même affaire que, moi, je le sais, là, une année, je jouais dans le A faible, l'année d'après, je jouais dans le A fort, puis l'année d'après, je jouais dans le 2A. Puis là, pour un problème de visa, à un moment donné, même, je joue 3A. Puis un problème de visa, je peux pas aller à Buffalo puis à Ottawa avec l'équipe. On me fait lancer à Knoxville dans le 2A. C'était facile comme ça se peut pas, je veux dire. Mais moi, j'avais 28 ans, puis je jouais contre du 22, 23, 24 ans, des prospects 2A, mais... C'est pas la même chose. Donc, le joueur, le Pierre-Luc Laforêt de 30 ans est de beaucoup, beaucoup supérieur à un jeune joueur qui joue 3A de 21, 22 ans. Gracial, là, l'année d'après, il a gagné le MVP au Japon. Il était trop fort pour jouer. Non, on a juste un joueur du baseball majeur qui n'a jamais voulu signer avec le baseball majeur pour toutes sortes de raisons. La façon que Mandoulé attrape une balle. Jonathan Malo, à 22, 23, 24 ans, c'est un joueur de niveau 2A, 3A aux États-Unis. Mais quand il joue à 28 ans, pour nous autres, il est bien plus fort qu'à 22, 23 ans.
Ben oui,
c'est
ben
toute
oui,
son approche, puis il est encore tout en forme. Donc, on s'est ramassé avec tous des joueurs que ça n'avait pas de bon sens. Fait que quand on joue contre l'équipe nationale cubaine, même les Cubains... Dans les médias là-bas, disait qu'il allait nous ramasser, puis de quelle façon, peut-être ça, pour finalement comprendre que non, c'est pas ça. Puis pourtant, cette équipe-là qu'on a dit, ouais, mais c'est pas la vraie équipe nationale cubaine. Il y a plusieurs joueurs de cette équipe-là.
Louis Robert, qui sont
des majeurs présentement. Tu sais,
il avait 17 ans.
Ouais.
Fait que c'était,
lui était trop jeune.
Il était trop jeune, mais c'était leur futur gloire. Là.
Puis tu sais, de vivre ça aussi, les gens de Québec, là, si on se met à la place des spectateurs aussi, d'être... Je me souviens de la sélection cubaine, par exemple, qui est assise dans les estrades avec des gens au bout qui surveillent pour être sûr que s'ils vont aux toilettes, on va aux toilettes avec eux. Là, tout ça aussi fait partie de l'expérience qu'on a.
Ben oui,
et c'est incroyable. Pensez à ça, là. Ouais. C'est incroyable.
Mais la thématique, c'est la résilience. Là. Ouais. Il faut tellement de résilience pour les amener ici. Là. Parce que ça a changé de plan... 25 fois avant de les amener. Parce que s'ils décidaient que... Moi, mais finalement, on ne veut pas prendre... je me souviens, entre autres, à Ottawa, ils sont attendus par l'ambassadeur cubain à la mairie à 9h30 le matin. Puis là, ils m'appellent puis ils disent qu'ils veulent pas venir parce qu'ils veulent finalement se reposer le matin. appeler le directeur puis de dire qu'est-ce qui se passe. Après ça... prendre l'autobus après le match des Capitales. Donc, ils prenaient le match. Je pense que la première série était à Québec. Après ça, on s'en allait à Ottawa, quelque chose comme ça. Et quand le match se termine à 10h, à 11h, vous prenez l'autobus. Vous arrivez à 3h du matin à Ottawa, puis les chambres sont déjà réservées. Ils m'ont dit après le match, non, finalement, on va rester à Québec. Parce qu'il y a un autobus qui t'attend. Il n'y a pas de chambre de réservée à Québec. Les chambres sont réservées à Ottawa. Ouais, mais on a mieux finalement se reposer. Mais à la dernière minute, là, de s'asseoir là, avec Ray, puis ça dure une demi-heure pour convaincre avec des gants blancs, faut que vous embarquiez.
Ben oui.
Il y a une cédule, on joue à tous les jours. À New Jersey, finalement, ils ne veulent pas jouer demain. Fait que Lockhart, un des choses m'appelle, puis il dit, ils ont fait quoi? Ils veulent pas jouer demain. Puis pourquoi ils veulent pas jouer? Ils nous ont dit qu'ils veulent pas jouer demain. Aïe, 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 c'était comme... Écoutez, on va passer à travers ça, puis on a finalement passé à travers cette série-là avec difficulté. Il avait d'ailleurs quitté le terrain sur un appel de l'arbitre, qu'il n'était pas content. Il avait tout, le coach avait tout ramené ses joueurs au banc, puis il avait dit on arrête, on est tanné de se faire avoir. C'est ce qu'il prétendait que.
Il y avait complot le complot contre eux.
Oui, il y avait un complot contre eux. Wow. Donc, ça, c'était très, très, très difficile. Puis c'était une relation entre tout ce qui s'en venait, entre deux pays, pareil, puis tout ça. Donc, c'était gros. Puis. Il se faisait varloper à Cuba. Raymond Boisvert nous donnait beaucoup les articles de journaux de ce qui se passait. Donc, quand ils ont commencé la série, je ne sais pas si ça a commencé à 3 victoires, 6 défaites ou quelque chose comme ça.
Oh, c'était décevant pour eux.
Pour les Cubains, ouais. Ah ouais. C'était une pression qui était énorme parce que Cuba entier regardait cette série-là en leur disant « Sont-ils capables de compétitionner sur une base régulière? » Donc, c'était...
Mais ça vaut la peine quand même d'être résilient là, quand tu regardes ça.
Ben, tu sais, puis brésilien dans des gros projets aussi, la surface, le dôme, etc. aussi, ça fait partie de la... Tu sais, je suis persuadé que l'année où on a mis la surface synthétique au stade, ça faisait pas 20 minutes qu'on en parlait. Là. On était en termes de plusieurs mois, si c'est pas plusieurs années. Projet probablement... Je prends pour acquis que ça a pas été facile. Est-ce que je me trompe?
Ça a pas été facile. En fait, pour être bien honnête, là, les années 2010, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
ouais.
Avec la construction du centre Vidéotron, puis de l'avenue des Nordiques, a été très, très, très difficile pour nous autres.
Okay.
Très difficile en termes de passion. Parce que nous, à l'interne, on est passionnés de ce qu'on fait. Tout ce qu'on veut dans le stade, c'est un air climatisé. Là. On ne demande pas beaucoup, puis t'en es témoin. Là, ou un peu de chauffage, puis ou mettre des plastiques devant les fenêtres. Puis là, ils se bâtissent. Quelque chose de l'autre côté à un train d'enfer.
Le sentiment d'être oublié?
Ben, c'est parce que, tu sais, encore une fois, tu es dans la règle de 3. Si on en met 400 à l'autre bord, on peut-tu juste nous aider avec 40 000 piastres? On demandait le 1 millième du montant, puis on avait l'impression que nous, dans notre monde à nous, on avait un rayonnement à Québec, puis qu'on amenait quelque chose de constant, puis qu'on travaillait fort pour ça. Donc, il y a eu ce côté-là difficile. Il l'a eu auprès des partenaires. Je ne dis pas que les partenaires nous ont laissé tomber au contraire, mais on appelait les nouveaux partenaires et on est désolé, les Nordiques s'en viennent.
Ils attendaient le retour des Nordiques.
Donc, corporativement, ça a été dur à avaler. Okay. Puis même des existants avec nous qui disaient « On est désolé, on apprécie ce que vous avez fait, mais notre budget cette année à Québec, ça c'était surtout pour les entreprises, c'était plus à Montréal, notre budget cette année va aller vers soit l'achat de... »
D'une bande au centre Vidéotron,
d'une bande, comme quelque ça, chose comme puis... ça. Okay. Donc, ça a été. Ça prenait de la résilience pour tout ça. Et ce qui est arrivé, en fait, l'histoire face au synthétique, puis tu vas t'en souvenir parce que tu as probablement écrit un bout là-dessus, mais il y a un article qui est sorti à un moment donné disant que la ville souhaitait que les infrastructures soit absorbé par les gens qui les utilisent.
Ouais.
Fait que j'ai un appel, pas des pages 85, 86, 87, mais des pages 1, 2, 3, plus politique.
Général,
ouais, voilà. C'est ça, le général qui dit, tu penses quoi du fait que l'an prochain, si le stade, ça coûte 320 000 $ entretenir par année, les capitales vont avoir un bail de 320 000. Et j'ai répondu, et puis imaginez, là, si tu comprends le contexte que j'ai répondu, ben nous autres, on n'est plus là. Si c'est le cas, on n'arrive pas.
Comprends.
Mais là, en première page du journal, le lendemain, les capitales partiraient si. Fait que là, M. Labeaume m'appelle, puis il me crie après. Il dit, viens-t'en, je vais te voir tout de suite. Fait que j'arrive, puis là, on a une conversation assez animée. Puis c'était souvent drôle là-dessus avec M. Labeaume, parce qu'au moins, on se parlait, puis c'était direct. Puis il aimait vraiment le baseball, tout le truc. Puis il dit, penses-tu vraiment que je laisserai aller capital? Es-tu malade? Tout ça, j'ai simplement répondu à une question. Si on me demande 300 000 par année, oui, mais on va trouver des solutions. Puis toute la fête. Fait que là, finalement, je me souviens, M. Côté à côté, il a vraiment là, demandé de baisser le ton. Puis tout ça, puis on est allé plus en mode solution. Puis c'est quoi la solution? Puis finalement, on en est venu que la solution, c'est que si le stade était démocratisé, qui était utilisé par l'ensemble des citoyens, puis qu'on était capable de faire d'autres tournois, puis que c'était pas les capitales qui utilisaient la majorité des heures, ben à ce moment-là, lui à être capable d'en mettre plus dans le stade. Fait que, OK, on va aller sur une surface synthétique.
Okay.
Et c'est là qu'on a commencé à présenter des projets. On a formé un organisme à but non lucratif et de dire, écoute, on va trouver une façon de mettre un synthétique. Mais ça a été long, 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 long. Je veux dire, on attendait, puis on disait, hey, l'année prochaine, je pense que ça va fonctionner, la prochaine, ça va fonctionner. Puis à ce moment-là, ces années-là, il y avait de la pluie constamment. Fait qu'on disait, avoir du synthétique, peut-être qu'on sauverait 3-4 matchs par année, on serait capable de faire d'autres tournois de baseball, on serait capable d'animer.
Tout ça, on sait que c'est le cas, là, maintenant qu'on l'a vécu depuis quelques saisons, le synthétique, tout ce que tu dis là est vrai, là.
Mais ça marchait jamais, on y arrivait pas. On présentait, puis il y avait sol contaminé. Après ça, avait les budgets, puis les budgets étaient passés, puis tout ça. Fait que finalement, ça s'est fait, mais ça a été... Il y a eu qui repensait, là. C'est,
aussi complexe que de réussir à faire libérer quelques millions de dollars pour un plan sur 5 ans par la ville, là, ce qu'on a à faire, ça doit pas dire... Est-ce que ça a été évident, ça, ou... Parce que là, la ville, ça fait quand même un certain temps que les capitales lèvent la main pour dire le stade, puis que ça bouge, mais pas tant que ça. Là, on l'a, là. Le montant, il est budgété, tout ça. Il a fallu travailler fort.
Oui, absolument, mais encore une fois, c'est d'être patient. C'est quand on parle de résilience, et puis de comprendre aussi dans le contexte qu'on est là. Je veux dire, moi, je suis citoyen aussi de la ville de Québec, puis je sais qu'on a des besoins, puis je regarde des fois nos rues, les logements, les ici, fait que de tirer trop en même temps de ton bord en disant le baseball c'est plus important que tout le reste à côté, c'est impoli aussi, tu sais, de le faire.
Alors, est-ce que c'est cette approche-là qui a permis justement de convaincre des gens, une approche un petit peu plus douce, et non à je débarque avec mes gros sabots ici, puis parce que, tu sais, le stade, Carl, là, on l'aime beaucoup, mais c'est évident qu'il y a des choses à faire dans ce stade-là.
Oui, ça, c'est sûr, mais la transformation du passé d'un terrain naturel au terrain synthétique, c'était une grosse décision.
Oui.
Parce que les gens étaient attachés à leur terrain. Je veux dire, moi, la première fois que j'ai vu le stade avec les pépines, avec les tracteurs, il n'y a plus rien, là. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il y a un doute quand même.
Ben oui.
T'sais, est-ce que ça va marcher? Parce que l'image qu'on a, en tout cas les médias, c'est les terrains que vous avez joués dans le Midwest américain, où ce n'était que des terrains synthétiques, peut-être aussi, là, puis qu'il n'y avait pas de dôme, là, par exemple. Mais c'est pas aussi. Sur le coup, c'est pas aussi beau qu'un terrain naturel.
Oui.
On est habitué de voir. On était habitué de voir la vieille surface du terrain synthétique. C'était ça, nos références, là. C'était pas.
Ça veut dire que la résilience, là, c'est aussi de combattre le préjugé de façon. Continue. C'est toujours de combattre le préjugé parce que la résistance vient du préjugé défavorable, de choses qu'on n'a pas vécues ou de mauvaises expériences qu'on peut avoir vécues aussi. Mais en se disant, ici à Québec, on est peut-être capable de le faire autrement. Il faut croire. Il faut être très
surtout
croyant.
Surtout pas le faire trop vite.
Mais même M. Labeaume, à l'époque, puis les gens de la ville, ils disaient, hic, il va avoir un gros vent de face sur enlever le naturel de ce côté-là. Puis là, moi, j'ai dit, je vais m'en charger de ce parti-là.
Okay.
Parce que j'avais trouvé ma phrase pour convaincre, c'était... Écoute, j'ai dû répéter ce que je vais vous dire là, au moins 2000 fois. Là. Donc, M. Laplante, vous n'allez pas nous enlever le gazon naturel. Hein? C'est tellement beau que tout est vide, ça sent le baseball. Puis là, je disais, M. Jugard, est-ce que vous pensez qu'un terrain de baseball, c'est un terrain en gazon naturel ou c'est un terrain qui a du monde chaque jour puis qui est animé puis que les enfants jouent dessus? Qu'est-ce qui est le plus beau?
Le mot enfant, c'était très bien positionné là-dessus.
Et là, il disait, il faisait une pause, il disait,
ouais,
c'est beau.
C'est beau, j'ai compris. Et là, on a réalisé, c'est qu'il est toujours plein présentement. Oui. Fait que c'est bien plus beau.
Même l'hiver.
Mais d'avoir des jeunes tout le temps dessus, c'est bien plus beau que de dire, ah, c'est en naturel. Puis les gens pensent que les stades de gazon naturel sont occupés, puis tout ça, ils sont même pas proches du taux d'occupation. Et ceux qui sont incroyables, comme le Fenway Park, puis vous allez dans ces stades-là, on parle de millions et millions d'entretiens. Je veux dire, ils sont capables d'enlever la surface en une journée, puis dérouler un gazon par-dessus en l'espace de 2-3 jours. C'est incroyable ce qu'ils font, mais on n'a pas ces moyens-là. Et moi, je suis très, très, très conservateur traditionnel. J'adore le naturel. Mais il m'arrive encore de verser une larme quand je vais sur le terrain puis qu'il y a 6 équipes moustiques qui jouent en même temps puis que les parents crient partout. C'est ce qu'on a toujours souhaité du stade et c'est ce qui se passe présentement. Puis on nous a fait quand même confiance là-dessus avec, avec la ville. Maintenant, évidemment, qu'il y a eu des choses qu'on aurait aimé qu'ils se fassent plus vite. Puis on aurait aimé que la ville participe plus rapidement à ce projet-là, parce que nous autres, on le voyait, puis on y croyait. Puis aujourd'hui, ben, on a trouvé des façons avec tout ça. Pour en revenir maintenant au fait que là, il y a 20 millions qui est investi dans les prochaines années,
ouais.
On aimerait que ça aille plus vite, évidemment. Tu sais, je veux dire, comme je jasais pas plus tard qu'il y a quelques semaines, quand on nous a fait le plan de « ça s'en vient », tu sais, on en a encore jusqu'en 2027.
Mm-hmm.
Mais tu sais, ça fait quand même, ben moi, personnellement, ça fait depuis 99 que j'ai hâte qu'on ait le chauffage, puis qu'on ait
les nouveaux sets de lumière, etc. Sets,
puis c'est des choses comme ça. Mais en même temps, en bout de ligne, est-ce qu'on est bien au stade? Ben oui, on aime ça, puis c'est éco.
Ben, d'ailleurs, le monde, les gens, ils vont et ils retournent. Puis,
ouais.
Personne qui quitte le stade en se disant qu'il n'a pas passé une belle soirée. Là.
Il y en a qui ont quitté le stade, mais c'est par la force des choses. Je vais finir avec la pandémie, c'est plate un peu, mais il faut en parler. Ça fait partie de notre histoire, puis ça fait partie de l'histoire des capitales. Puis pandémie, changement de ligue, là, on ira peut-être avec ça aussi pour terminer. Mais tu sais, veux pas... C'est une méchante, pour quelque organisation que ce soit, c'est une méchante claque d'en face ça, d'apprendre que finalement tu ne joueras pas au baseball, soit peut-être jouer, mais pas à domicile. Puis, comment vous avez accueilli ça, cette réalité-là qui a été la pandémie?
Ouais, c'est un double coup de poing pour des raisons là, plus personnelles à l'organisation, puis à moi aussi. Là, dans le sens qu'on a eu l'impression que. Bon, pour les raisons que j'ai parlé, le retour des Nordiques, tout ça, on en parlait un peu moins à partir de 2016-2017. On a eu une grosse saison en 2017. 2018-2019, on sentait que les liens avec la Frontier, donc les équipes, ça allait, tout ça, ça allait se solidifier. Donc, on joue la saison 2019, qui est la pire saison de l'histoire des Capitales. Ouais, de loin, on a fini presque 20 matchs en dessous de 500. Mmh. Et malgré tout ça, on se ramasse au mois d'août avec 6 ou 7 sold-out. Puis là, quand ça s'est arrivé...
Il y a un élan, là.
On a dit, hey, pour être aussi pas bon que ça...
On a enfin réussi.
Okay. Et quand il est arrivé les états financiers de 2019, c'était tellement positif. La première fois depuis Éric Gagné qu'on avait une année aussi positive que ça, malgré... la défaite, tout ça. Fait qu'on... Puis le début de saison, c'était de la pluie. C'était pas le fun. Et quand on a commencé octobre, novembre, décembre, janvier au niveau corporatif, puis vente de billets, on n'avait jamais eu ça. Malgré cette saison qui était vraiment, vraiment pas bonne, on n'avait jamais vendu autant de billets, on n'avait jamais vendu autant de corporatifs que ça. Donc, on tripait.
C'est capoté pareil. Ouais. Ça, je pense que c'est pas très su. Ouais. L'espèce d'élan qu'on a là aujourd'hui, là, en 2024, ouais. À 25 ans d'histoire, ouais. Il y a quelques années, on avait déjà un signe qu'on s'en allait vers là.
En avril 2019, on a décidé de baisser les prix de 30 % au complet. Et la réponse a été incroyable. Puis je pense que c'est cette année-là aussi que il y a eu un tour de ville de la part des joueurs que ça a moussé, puis ça a été très connu, où les joueurs se promenaient dans l'autobus rouge à deux étages.
Ouais, ouais, ouais.
Patrick Scalabrini avait dit, ils vont savoir pourquoi ils portent le logo Capital, parce qu'ils vont connaître Québec avant même de jouer.
Ah, c'est bon, ça.
Et ça avait été un beau stunt, puis ça avait fonctionné, mélangé avec tout ça. Donc, on arrive, et là, quand on fait les prévisions, le budget pour 2020, donc on est rendu en janvier, février.
Mais la fusion se fait, là, en 2020.
La fusion se fait, donc pour la première fois, les nuages se dégagent, on va être correct. Puis quand tu prévois peut-être faire 100, 125, 130 000 piastres de profit dans ton budget, ça veut dire que je peux mettre un peu plus de feu d'artifice. On va faire telle chose qu'on veut faire depuis longtemps, telle animation. Puis là, on dit que la roue, dans ce temps-là, va tourner du bon bord, et bang! On arrive direct dans la pandémie. Cette journée-là, là, je pense que c'est le 13 mars, assommé complètement, sauf que, écoute, ça va juste durer deux semaines, après ça, on va être correct. Puis, c'est ça.
Tu te souviens, c'était... Il n'y a pas eu de baseball.
Ouais.
Il n'y a pas eu de baseball nulle part cette année-là.
Il n'y a pas eu de baseball nulle part, sauf que, en tout cas, moi, personnellement, je m'ai entêté à dire « on va jouer au baseball
oui, », et c'était sincère. Ça en est de la résilience.
Ouais.
Parce que vous aviez tenté d'organiser un tournoi au stade. Ouais. Finalement, ça n'a pas,
pas fonctionné.
Mais tu sais, ça gardait un peu l'espoir d'avoir du baseball pour les amateurs, ouais, pour les joueurs. Puis...
Mais très décourageant. Tu sais, dans le sens, ouais, que j'avais eu les noms de tous les directeurs généraux du baseball majeur pour, ouais, repérer où étaient les joueurs canadiens. Sachant que les joueurs canadiens n'allaient pas être capables de traverser la ligne, il faut que ces joueurs-là, parce qu'aux États-Unis, ils ont joué. Pas professionnellement, mais il y a eu du baseball qui s'est fait dans... Fait que là, t'appelles les directeurs généraux et tu dis, tu sais, ton joueur qui joue à fort, je vous ai trouvé une solution. On va faire 4 équipes, 2 équipes à, ouais, Québec, 2 équipes à Trois-Rivières. On va jouer entre nous autres. On va être COVID-proof parce qu'on va être dans une bulle ensemble.
Territoire.
Puis ça, ici, va, ouais, permettre à tous tes prospects de jouer. Et quand un sur deux, là, te disait qu'il n'y en avait rien à foutre, là, c'est comme...
Hey, mon Dieu, c'est ton joueur.
C'est ton projet. Ouais, c'est ton projet, puis...
Qu'est-ce que tu veux dire, t'en as rien à foutre?
Il y en a un qui disait, wow, that's a good idea, let's do it, puis qu'est-ce qu'on a besoin, ouais, de faire, puis tout le kit, puis l'autre, non, puis les assurances, il va arriver quoi? Là, je te dis, écoute, on est un stade...
On est au-delà des assurances.
C'est deux stades professionnels, il y a du baseball professionnel, ça va permettre à ton joueur de ne pas perdre une année de sa, ouais, vie. Non. Il était comme complètement... Il y en a qui étaient...
Il préférait que son joueur, ouais, ne joue pas du tout. Ouais. Que de venir ici.
Que de se donner du trouble un peu.
Mais Michel, tu dis que c'est décourageant. C'est décourageant pour vous dans les bureaux, c'est, ouais, décourageant pour l'équipe, ouais, pour le personnel. Mais pour les... Moi, je reviens aux amateurs. Les amateurs voient un effort. Mm. Ils n'ont pas, ouais, le même découragement. Ils ont une déception et non un découragement, je pense. Le fait qu'il n'y a pas de baseball, c'est plus une déception. Mais ça garde quand même l'image d'une organisation qui travaille pour ses amateurs aussi.
Ben oui.
Vous ne le faites pas juste pour vous, Michel.
Non, puis on posait des questions. On disait comment... Ouais. Le puzzle, là, on l'a reviré de toutes les manières. Puis là, oui, mais on pourrait jouer de cette façon-là. Puis là, quand Patrick, là, il avait fait la liste de 78 joueurs canadiens, il les avait tous appelés. Tu ne pourras pas traverser. Qu'est-ce que tu penses faire? Ouais, mais je vais peut-être être capable de traverser. Telle affaire. Est-ce que tu viendrais jouer? On ferait un genre de 50 matchs entre nous, puis on aurait un horaire, tout ça. Puis là, les joueurs commençaient à dire oui. Mais là, les joueurs, il fallait qu'ils demandent la permission. Puis là, c'était les assurances. Puis là, Patrick le rappelait 3 jours plus tard, puis il disait, puis ça fonctionne-tu? Ils me répondent pas. Il y avait comme de l'indifférence de la part des organisations dans tout ça. Et de notre côté, ben, il y avait évidemment de demander au gouvernement, ouais, mais y a-t-il une façon qu'on peut isoler? Et tu n'as aucune réponse dans ce moment-là. Fait que là, tu te dis, comment le Canadien de Montréal fait, lui, pour jouer en bulle? Puis qui ont contacté? C'est qui la personne? Puis là, toi, t'essayes. Puis okay. c'est une tour de Babel. Là. Je veux dire, tu n'es pas capable d'arriver à parler à la bonne personne. Fait que quand on a annoncé, je me souviens pas c'est quelle date on a, ouais, fait l'annonce. Ça, c'est la plus dure de ma vie. Là.
OK, ah oui?
Ouais. Parce qu'il y avait, moi, dans ma tête, à moi, je me disais, je pense qu'on va perdre des capitales en jouant pas un an. En continuant pas, puis en trouvant pas de solution. Il est arrivé aussi des petites choses personnelles. Là. Il y a une dame qui venait à tous les matchs, qui a demandé l'aide à mourir suite à ça. Donc, ça a été pas de baseball. Là, je continue pas, puis tout ça. Donc, il y a eu des moments très beaucoup, beaucoup d'émotions dans ce groupe. Puis quand on a décidé de dire « c'est fini », les semaines d'après, ça n'a pas bien été.
Ça ne doit pas être un sentiment très agréable.
Et ça n'a pas été plus facile l'année d'après, parce que l'année d'après,
Québec.
Oui, mais avant Équipe Québec, là, quand je vais au meeting, on demande à la Ligue un sourcil au mois de mars pour dire si on va jouer ou pas. Et il fallait dire le 10 mars si on embarquait ou pas dans l'aventure. Et finalement, on a demandé, on peut-tu avoir le 14 avril? Puis il y a quand même quelqu'un des propriétaires avec raison qui s'est levé, il dit, ça ne fonctionnera pas. On a des contacts, nous autres, au gouvernement, avec notre entreprise du gouvernement canadien. Il ne peut pas avoir de baseball cette année. On ne peut pas traverser les douanes. Puis là, j'ai dit, je pense que oui, puis donnez-nous jusqu'au 5 avril. Et c'est là que le 5 avril, on a fait l'offre de dire, OK, puis si on s'en allait jouer les 50 premiers matchs sur la route avec vous autres, ça serait-tu possible? Puis là, il y avait Ottawa, Trois-Rivières, Québec. Fait que si je dis oui à un, comment on fait pour faire l'autre? Fait qu'on a décidé de s'unifier, puis de faire cette équipe Québec-là, puis d'aller jouer aux États-Unis les 50 premiers matchs. Et que vous sachiez, quand on lui a dit que ça allait fonctionner le 15 juillet pour revenir, c'était pas vrai. Donc, c'était pas vrai auprès de l'autre côté, mais il m'appelait à tous les 3 jours, la Ligue. T'as-tu une nouvelle? Je pense que ça va fonctionner. Je pense que ça va fonctionner. Vous regarderez là, au basketball, là, les Raptors, là, ça va fonctionner. Puis les Blue Jays recommencent. Là. We didn't see this. Well, ça s'en vient. Toute l'équipe.
Les Blue Jays jouent à Buffalo.
Ouais.
Ouais.
C'est ça. Exact. Fait que finalement, on a été...
On arrange un petit peu la vérité là, pour que ça marche.
On n'avait pas le choix parce que si on ne jouait pas cette année-là, si on ne jouait pas cette année-là, on n'est plus à Québec.
Parce que la Ligue continue, là, c'est ça l'autre affaire. Hein? C'est que la Ligue reprend, continue elle, sans là. Les équipes ouais. du Québec et du Canada. Tu sais.
Et la Ligue peut aussi commencer à aimer ça, de ne pas avoir à faire de visa pour ses joueurs. Donc, ils jouent une autre année sans nous. Là.
Oui.
Puis ça se peut qu'au prochain meeting, ils disent « Sais-tu quoi? On est rendu avec la Frontier, mettons, sans nous, à 12 équipes. On est bien comme on est là, on est désolé. »
Et 12, c'est viable?
12, c'est viable.
Tout à fait.
Fait que c'était très, très, très important de jouer cette année-là. Puis ça a été une grosse dépense pour Jean Tremblay puis Philippe. Puis de lui convaincre aussi que c'était l'enjeu, tout ça, puis il a embarqué dans l'aventure, mais ça a été des pertes énormes. Je veux dire, tu joues à l'étranger, mais tu joues pas à domicile, puis tu vends pas de billets. Donc, c'est que de la dépense, là. Puis aujourd'hui, le temps nous donne raison.
Vous êtes récompensé pour ces efforts-là.
Ça a été payé à plus long terme, mais il fallait donner
c'est le comme coup. Hein. Ouais. C'est comme des placements à long terme, puis là, tu...
Ça a été le début de Charles aussi dans la pandémie. Charles devient directeur général dans la pandémie. Il est comme, wow, c'est quoi ça?
Mais regarde aujourd'hui.
Il n'y a plus de problème sur rien. Là. Chaque fois que tu demandes quelque chose, il n'y a jamais de problème.
Exact. Ça vient c'est
à...
ça. Exact.
Cette année, à peu près, toutes les personnes associées à Lake Frontier veulent venir à Québec.
Ouais.
Alors, tu sais, c'est.
C'est vrai.
T'sais, l'histoire. Je dirais pas fini bien, là, mais c'est une belle histoire qui continue
de se poursuit créer. Bien. Ouais. Et d'ailleurs, ma dernière question, ça va être celle-là. Est-ce que les 25 prochaines années des capitales vont demander plus, moins ou autant de résilience que les 25 premières, à votre avis? Plus, pas certain, je dirais autant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose à recommencer tout le temps. Est-ce que je me trompe en disant ça?
Moi, je pense qu'il y a quand même une base.
Il y a des choses acquises.
Il y a quand même maintenant une historique importante pour les capitales qui sont bien implantées. Là. Ma surprise, ce serait que les capitales ne soient plus là dans 25 ans. Ma surprise ne sera pas... ils vont-ils être capables de toffer? Là?
On a passé cette étape-là.
Moi, je pense qu'on a passé cette étape-là. Puis, ça ne sera pas vraiment de la résilience. Je pense que ça va être de la planification, du développement, du rêve.
La passation de connaissances.
Oui, mais ça, c'est déjà commencé. Oui. Alors, je pense qu'on est plus dans ces...
Moi, je suis plus naïf, à ce niveau-là. Je veux dire, pour avoir de la résilience, il faut être naïf, que je pense. Là. Puis,
faut avoir des rêves.
Ouais, j'ai perdu un peu de naïveté dans le bout de pandémie.
Ouais.
Donc, ça n'a pas aidé à y croire. Fait qu'il faut de la naïveté et tout ça. Puis, dans ma naïveté d'aujourd'hui, je suis convaincu qu'il va y avoir moins de résilience à y avoir pour garder les capitales. Donc, c'est mon côté naïf qui revient. Je suis bien content de penser comme ça.
Ça devrait être correct.
Mais j'ai l'impression qu'on est, sur une belle lancée, puis j'ai l'impression qu'on n'a pas atteint le pic encore. Oh. Ouais, j'ai vraiment, vraiment l'impression qu'avec le...
15 soirées toutes vendues l'été passé, puis on n'a pas atteint le pic?
Non. Puis la raison est forcément que j'arrive des meetings de ligue, puis ce qui se passe dans le baseball présentement, où d'ici 2 ans, les équipes du baseball majeur n'auront pas plus que 3 équipes affiliées. Donc, on parle de 40 à 50 équipes qui vont être libérées dans les 2 prochaines années par le baseball. Et ces villes-là qui ont du baseball depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, arrêteront pas d'avoir du baseball. Donc, le baseball indépendant va juste devenir plus fort. Le territoire qu'on a présentement, qui est déjà très grand et très séduisant pour ces villes-là, qui sont souvent situées entre Chicago et New York et Québec, donc dans tout ça, il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont s'ajouter. Puis
on tombe à une ligue à 60 équipes, car à un moment donné, ça va
être... Puis le sold out, j'y crois, je crois, je l'ai vu à Saint-Paul, je l'ai vu dans plein d'endroits où ce que ça n'a pas été sold out pendant des années. Puis à un moment donné, quand il arrive ce qui est arrivé l'an passé, une fin de saison, comment on fait pour avoir un billet? On parle juste de 4000 billets, là.
Ah oui.
C'est pas dans une ville qui grandit tout le temps, fait que ça pourrait être possible dans les prochaines années qu'on soit constamment dans cette situation-là où c'est un ticket qui est dur à avoir pour...
Est-ce que le stade va suffire à la demande dans 5-10 ans?
Bien, la décision que la Ville a décidée, c'est que on gardait ce stade-là.
Oui.
Je pense que si on avait fait un sondage auprès de la population, les gens veulent garder le stade.
Oui.
Alors, ils veulent pas le bouger. Fait que,
c'est pas ça, mauvais, une rareté de billets, comme tu décris là. C'est pas mauvais non plus, par exemple. Non. En fait, même, je pense que c'est très bon, ouais, pour une équipe.
Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que les quatre gros piliers là, qu'il fallait solidifier,
ouais,
sont enfin en place. Donc, ça prenait... Tu sais, je le répète souvent, mais tu sais, ça prend un Philippe Tremblay qui dit « J'aime ça, puis c'est pas prêt de partir, puis il veut même rajouter toutes sortes de d'affaires pour que ça soit le fun. »
Qui vient sur la route, qui suit l'équipe. Là, tu vois que c'est un passionné. Ben,
exactement.
Oui.
Après ça, on prend un stade que la ville prend la décision, qu'elle va le retaper, puis tout ça. Donc, ce pilier-là, il est solide. Il y a 10 ans,
on ne pensait pas de moi. Mais non.
Après ça, la Ligue, la Ligue est...
On est 16.
Est en place, puis c'est solide. Puis peut-être l'avenue d'une expansion à Montréal éventuellement qui va juste venir créer
autre exemple de résilience.
Oui. fait que je pense que tous ces facteurs-là, ouais, puis il ne faut pas oublier le probablement le plus important là-dedans, c'est qu'on ne semble pas penser que le baseball est en train de s'épuiser au Québec. C'est en hausse, en augmentation. On va toucher encore 40-45 000 membres à Baseball Québec où il y a 12-13 ans, on était à 17 000 membres. Tant à 40 000 personnes qui jouent maintenant au Québec avec au baseball. Fait que tous ces facteurs-là font que... Et puis juste une petite remarque quand on parle de résilience.
Ouais.
Quand on regardait le baseball dans les années 90, là, tu sais, les gens qu'on regardait, c'était Albert Bell, Barry Bonds, qui parlait à personne, qui parlait pas aux journalistes, qui étaient... On parlait de le salaire, on parlait des problèmes de drogue dans le baseball, tout, oui, ça. Le baseball est bien plus beau aujourd'hui. Les athlètes sont bien plus sympathiques. Tu sais, Otani, il est une bête, puis
tu vois qu'ils ont du plaisir.
Oui, exactement. Ouais. Fait que
ils ne cachent pas non plus. Ils ne cachent pas leur plaisir, les joueurs, aujourd'hui.
Un sport sans commotion cérébrale. Donc, c'est y a plein de facteurs qui font que le baseball... Je pense pas que le baseball parte là, dans les prochaines années. Je pense que l'ensemble du baseball va être de plus en plus populaire. Fait que Édouard Julien qui se développe à Québec, oui, dans tous ces programmes-là, puis il y a d'autres bons jeunes qui s'en viennent aussi à Québec. Donc, c'est drôle. Moi, je vois ça plus beau que les 25 dernières, même si j'ai adoré ces 25 années-là parce que ça l'a amené à des histoires incroyables. Mais j'ai l'impression que le parcours risque d'être un petit peu moins...
chaotique. Mais les capitales ont toujours été un vecteur de changement. T'sais, avec Michel, a été l'artisan de ça. Puis comme tu parlais de Charles tantôt, mais Charles a quand même aussi, ouais, une vision. Puis, la continuité, elle, ouais, est là.
Il est dans le même genre. Charles est dans le même genre, le passionné.
Moi, j'ai l'impression que les capitaines vont continuer d'être proactifs là, au niveau du développement de la Ligue. Parce que les capitaines, ils ne pensent pas juste à eux.
Ça prend une ligue qui est en santé. Ligue, si tu ne l'as pas, tu as beau avoir la santé de ton équipe. Il faut que la ligue soit là, il faut que tout fonctionne. Le stade, ouais, c'est multifactoriel.
Ça permet de passer des belles soirées. Puis en plus,
des belles soirées.
En plus, ils sont capables d'avoir une équipe gagnante. T'sais, ils prennent. Ouais. Ça fait partie de leur. On a beau parler de changement, on a beau parler de progrès, on a beau parler...
Toutes les bagues qu'on a autour de nous,
si
là...
Si tu parles à Patrick Scalabrini, ce qu'il veut, c'est une équipe gagnante.
Ben oui.
À la base, là...
Patrick, tu penses qu'il veut gagner?
Tu sais, déjà là, t'sais, fait que t'as l'administration, là, t'as les Michel, là, t'as les... Je dis pas les rêveurs, mais les développeurs, puis t'as Patrick qui s'arrange pour avoir une équipe à son goût, puis pouvoir gagner. Hein? T'as le meilleur des deux mondes, là.
Ouais.
Tu sais, je veux dire... Fait que c'est ça qui est le plaisir.
On va donc se souhaiter encore au moins 25 ans de belles soirées au stade, si c'est pas plus. Puis idéalement, ce serait plus, mais commençons par 25 de plus. Ça va être déjà pas si mal.
Commençons par la prochaine. Là.
Oui. Merci, Carl, de t'être joint à nous. Carl Tardy du Journal Le Soleil. Ça va toujours être ça du Journal Le Soleil. Non, c'est toujours Carl Tardy du Journal Le Soleil. Ça ne changera jamais, ça. Et Michel Laplante, ben là, si vous ne le croisez pas au stade, c'est parce que vous avez les yeux fermés. Merci
d'être là. Ou vous n'avez pas été capable d'avoir de billets ce soir-là.
Ah, c'est un bon point. Merci d'être là, d'être venu avec moi aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié. C'était une belle discussion. Dans l'esprit qu'on avait des podcasts sur le 25e anniversaire, je pense qu'on a réussi à toucher bien des choses. Merci, les gars.
Merci. C'est bien. C'est Michel.
Merci.